de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Indonésie prête à organiser la série MotoGP 2023 à Mandalika. Président Joko Widodo devrait regarder MotoGP Mandalika. Indonésie a remporté l'argent au relais de vitesse féminin aux Jeux asiatiques de Hangzhou. Ministère de la Main-d'œuvre organise un jumelage d'entreprises indonésiennes avec le Qatar. Pertamina présente 20 PME à Inacraf pour soutenir le gouvernement dans la promotion des PME. Sommet du Forum AIS 2023 affine la stratégie mondiale pour répondre aux problèmes du changement climatique. Et touristes au lac Toba s'envolent au milieu des avertissements de l'UNESCO. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le gouvernement indonésien prépare à nouveau un championnat de course de moto de classe mondiale, le MotoGP, sur le circuit international de Pertamina Mandalika, pour le calendrier des courses 2023. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, a déclaré que l'événement de la série MotoGP en Indonésie sera très intéressant en raison de la compétition intense entre les coureurs. Le ministre Sandiaga Uno, dans son communiqué de presse au complexe du palais présidentiel de Jakarta mercredi 4 octobre 2023, a expliqué que le championnat du monde de course de moto, qui se tiendra dans le centre de Lombok à l'ouest de Nusa Tenggara du 13 au 15 octobre 2023, c'est la deuxième fois que l'Indonésie accueille et ça va être très intéressant car c'est la fin de la saison de course. Selon Sandiaga, le Mandalika MotoGP a un impact économique important, pouvant atteindre 3,5 billions de roupies. Pour cette raison, le ministre a demandé le soutien de tout le peuple indonésien, y compris du président Joko Widodo. Le président Joko Widodo devrait assister à l'épreuve indonésienne de course MotoGP sur le circuit de Mandalika, dans la région centrale de Lombok, à l'ouest de Nusa Tenggara. Du 13 au 15 octobre 2023. Cela a été transmis mercredi par le chef du service du tourisme de Nusa Tenggara Occidentale, Jamaluddin Maladi, à Mataram. Comme cité par l'agence de presse Antara, il a déclaré que le président Joko Widodo n'était pas venu seul et qu'un certain nombre de ministres indonésiens avancés devaient également accompagner le président sur le circuit de Mandalika. Selon lui, en plus d'assister au MotoGP, le président Joko Widodo remettra également des trophées aux vainqueurs du MotoGP sur le circuit de Mandalika. Le directeur principal de la MGPA, Priyandi Satria, a déclaré que les préparatifs du circuit international Pertamina Mandalika pour la tenue du GP d'Indonésie 2023 ont presque atteint 100%. L'équipe indonésienne d'escalade a dû se contenter d'avoir remporté une médaille d'argent dans l'épreuve de vitesse féminine aux Jeux asiatiques de Hangzhou après avoir été battue par la Chine lors du match final à Chongqing mercredi. Nurul Ikama, Rajia Salsabila et de Sakma de Rita Kusuma Dewi ont réservé des billets pour la course à la médaille d'or après avoir battu la Corée du Sud avec un record de 21,869 secondes pour enfin rencontrer les représentants hôtes. En demi-finale, le trio chinois composé de Chang Shaoqing, Niu Di et Deng Lichuan n'a pas eu besoin de se précipiter alors que l'équipe du Kazakhstan a eu du mal à trouver ses marques et a manqué de vitesse. L'équipe locale a gagné avec un record de 23,318 secondes, soit près de 10 secondes plus rapide que ses adversaires dans le match final. Desak et Bila ont pris la tête après la deuxième montée, mais Nurul a glissé sur le chemin de l'arrivée et a trouvé l'athlète local terminant la course en premier avec un record de 20,925 secondes, 3 secondes et demie d'avance sur les 23,506 fixés par l'équipe indonésienne. La médaille bronze du relais de vitesse féminin est revenu à la Corée du Sud qui a battu le Kazakhstan avec un record de 26,9 en une seconde. Le ministère indonésien de la main-d'œuvre a organisé l'Indonésie Business Matching 2023 au Qatar afin d'offrir des opportunités aux travailleurs indonésiens. La ministre de la main-d'œuvre de la République d'Indonésie, Ida Fauzia, dans sa déclaration à Jakarta mercredi 4 octobre, a expliqué que cette activité de jumelage d'entreprise est une étape stratégique pour encourager les travailleurs migrants indonésiens à entrer et travailler au Qatar conformément aux procédures de départ et de placement correctes. Le ministre espère que les travailleurs migrants travailleront avec enthousiasme et seront fidèles au lieu où ils travaillent. Elle a déclaré qu'il existe trois revendications principales pour les travailleurs migrants indonésiens en fonction de leur secteur, à savoir l'hôtellerie, la santé et le pétrole et le gaz. La ministre Ida espère que ce forum pourra être un bon moyen de communication pour les entrepreneurs et les entreprises du Qatar avec les entreprises mettant en œuvre le placement de travailleurs migrants indonésiens présents directement au Qatar. Pertamina SA Persero s'engage à continuer de soutenir les efforts du gouvernement indonésien pour faire progresser les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) afin qu'elles puissent être indépendantes et compétitives sur le marché mondial. Ce soutien a été apporté à travers 20 micro, petites et moyennes entreprises accompagnées par Pertamina qui ont participé à l'exposition internationale de produits artisanaux Handicraft Inacraft au Jakarta Convention Center du 4 au 8 octobre 2023. Vice-président des communications d'entreprise de Pertamina, Fajar Joko Santoso, grâce aux informations reçues à Jakarta mercredi 4 octobre. Pertamina a expliqué que Pertamina a des partenaires dans toute l'Indonésie avec des produits de qualité supérieure prêts à pénétrer le marché international. Cette exposition de produits artisanaux devrait constituer un pont d'or pour les MPME vers le marché d'exportation. Ces MPME proposent divers produits allant des tissus aux bijoux en passant par des accessoires uniques de style indonésien. Fajar a ajouté, les MPME présentés à Inacraft 2023 ont passé par des résultats de sélection basés sur plusieurs critères. Depuis la préparation de la capacité de production pour les grosses commandes et la continuité de la production jusqu'à la certification. Conférence de haut niveau, sommet des États archipélagiques et insulaires, Forum AIS ou Forum des pays insulaires et archipélagiques 2023, qui se tiendra à Nusa Dua Bali les 10 et 11 octobre 2023, affinera la stratégie commune des pays insulaires et archipélagiques face les enjeux et problèmes maritimes sur la scène internationale, notamment ceux liés au changement climatique. Le Forum des pays insulaires et archipélagiques sera un forum permettant aux pays insulaires et archipélagiques de faire face à des ennemis communs, tels que l'élévation du niveau de la mer et le changement climatique. Cela a été transmis par un chercheur de l'Université Pajajaran qui est également le représentant de l'Indonésie à la conférence sur la recherche et le développement pour les pays insulaires et archipélagiques, Alexander Muhammad Khan, lors du Forum Merdeka Barat sur la route vers le sommet du Forum des pays insulaires et archipélagiques de 2023, intitulé « De vrai mesures pour gérer la mer », qui s'est tenue en ligne depuis Jakarta mercredi. Alex a estimé que les mesures prises par l'Indonésie étaient bonnes pour mobiliser d'autres pays pour résoudre les problèmes ensemble. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, a déclaré que les visites touristiques au lac Toba, au nord de Sumatra, sont actuellement en augmentation significative. Au milieu de l'émission d'un carton jaune ou d'un avertissement de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Cependant, dans sa déclaration, après avoir assisté à une réunion limitée au palais présidentiel de Jakarta mercredi 4 octobre, cité par Antara, son parti minimiserait l'impact négatif du carton jaune. Sandiaga a également déclaré que son parti prendrait des mesures anticipatives en informant les touristes potentiels que le lac Toba est toujours protégé par la nature. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que l'avertissement de l'UNESCO de révoquer le statut du lac Toba en tant que géoparc mondial si la gestion n'était pas améliorée était une alarme pour l'Indonésie. Par conséquent, il se coordonne directement avec l'organisme de gestion géré par l'Office du Tourisme du gouvernement provincial de Sumatra du Nord. Le gouvernement du district ou de ville, le gouvernement central et les autorités. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Cédric, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique. Et pour le titre, les relations entre l'Indonésie et l'Égypte se rapprochent, a affirmé l'ambassadeur d'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Lutfi Raouf, a déclaré que les relations de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans divers domaines, tels que le commerce, l'économie, l'éducation et la culture, étaient de plus en plus étroites. Lutfi estime également que l'Indonésie et l'Égypte peuvent relever les défis économiques mondiaux actuels grâce à leur engagement, leur détermination et leur travail acharné. Il a transmis cela lors d'une réception diplomatique pour commémorer le 78e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie à Wisma Duta de l'ambassade d'Indonésie au Caire, lundi. Lutfi Raouf a également déclaré que l'Indonésie et l'Égypte avaient signé un protocole d'accord sur la création d'un comité commercial conjoint au Caire. Selon Lutfi Raouf, l'existence de ce comité est très importante pour identifier et optimiser le potentiel de coopération économique qui est encore inexploité par les deux pays. Lutfi Raouf a également déclaré que la relation de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte n'est pas une concurrence, mais plutôt une relation qui complète les échanges commerciaux de chacun. Dans les domaines économiques et commerciaux, la coopération entre l'Indonésie et l'Égypte a continué de se développer au cours des 10 dernières années. Les deux pays ont réussi à augmenter la valeur du commerce bilatéral de 56% pendant la pandémie. Pendant ce temps, dans le domaine de l'éducation, il y a actuellement 13 000 étudiants indonésiens, dont la majorité étudie à l'Université Al-Azhar au Caire, en Égypte. L'ambassadeur Lutfi Raouf a également exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement et aux peuples égyptiens qui ont accueilli et offert aux citoyens indonésiens la possibilité d'étudier et de vivre en Égypte. La réception diplomatique s'est déroulée en présence de hauts responsables égyptiens, de diplomates et d'attachés de défense de pays étrangers en Égypte, ainsi que de partenaires de l'ambassade d'Indonésie au Caire. Lors de cet événement, l'ambassade d'Indonésie au Caire a présenté différents types de collections de batik provenant de diverses régions d'Indonésie, ainsi que des plats typiques d'Indonésie tels que le satay, le rifri et un certain nombre de collations typiques d'Indonésie. L'ambassade d'Indonésie au Caire a également présenté des spectacles de chant et de danse régionaux d'Indonésie, ainsi que des vidéos faisant la promotion de la beauté naturelle et des processus de développement mis en œuvre en Indonésie. Serge Ritter, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Serge Ritter, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 5 octobre, anniversaire de l'armée nationale indonésienne. L'anniversaire de l'armée nationale indonésienne, TNI, est célébré chaque 5 octobre. Cette journée ne peut pas être séparée de l'histoire de la formation de la TNI en tant qu'avant-garde de la défense nationale indonésienne. Le TNI est né à une époque où il défendait l'indépendance de l'Indonésie face à la menace des Néerlandais qui voulaient à nouveau coloniser. La fondation de TNI a commencé avec l'Agence de sécurité du peuple, BKR, qui ensuite été transformée en Armée de sécurité du peuple, TKR, le 5 octobre 1945. Afin d'améliorer sa composition conformant aux normes militaires internationales, le TKR a de nouveau été remplacé par l'Armée de la République d'Indonésie, TRI. Dans le développement ultérieur, le gouvernement a continué à s'efforcer de perfectionner l'armée, tout en luttant pour le maintien de la souveraineté et l'indépendance nationale indonésienne. Pour unir les deux forces armées, à savoir la TRI en tant qu'armée régulière et corps de lutte populaire, le 3 juin 1947, le président Soekarno a officiellement autorisé la création de l'armée nationale indonésienne TNI. Passons maintenant à l'événement du 5 octobre 1965, les funérailles des corps des héros révolutionnaires. Le 5 octobre 1965, les funérailles des corps des héros révolutionnaires victimes du mouvement du 30 septembre, ou souvent connu sous le nom de Z30 SPKI, Ontolio au cimetière des héros de Kalibata, Jakarta. Héros révolutionnaire est le titre donné à un certain nombre d'officiers militaires morts dans la tragédie du 30 septembre 1965 au soir et du 1er octobre 1965 au matin. Sur la base du décret présidentiel du 5 octobre 1965, les 6 officiers supérieurs et un premier officier de l'armée ont reçu le titre de héros de la Révolution. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la Journée mondiale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre. Cette commémoration est une forme d'appréciation pour les enseignants du monde entier qui ont rendu leur service en fournissant des connaissances utiles à tous. Selon l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants représente l'inquiétude, la compréhension et l'appréciation du rôle vital des enseignants, à savoir l'enseignement des sciences et bâtir une génération. La Journée mondiale des enseignants est différente de la Journée nationale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants est célébrée tous les 5 octobre, tandis qu'en Indonésie, la Journée nationale des enseignants est célébrée tous les 25 novembre. La Journée mondiale des enseignants a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 1994. C'est Jurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Tiap helah nafasmu.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo a présidé mardi 3 octobre 2023 une réunion limitée avec son personnel au Palais Merdeka à Jakarta pour discuter de l'atténuation de l'impact du phénomène météorologique El Niño. Lors de la réunion, ils ont discuté de tout, de la sécheresse, de la disponibilité d'eau potable, de la situation agricole jusqu'à l'anticipation et la gestion des incendies de forêt et de terre, Karhutla. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, après avoir assisté à la réunion, a transmis un certain nombre d'orientations du chef d'État à partir de la cartographie complète des problèmes en se concentrant sur la stratégie, de disponibilité de l'eau et en déployant des efforts continus de surveillance de la disponibilité de l'eau dans toutes les zones des centres de production alimentaire. Concernant les incendies de forêt et de terre, la ministre Siti Nurbaya a expliqué que, sur la base des données du 2 octobre 2023, il y avait 6659 points chauds avec 80% de chances de devenir des foyers d'incendie. Pendant ce temps, la superficie brûlée a été enregistrée à 267 000 hectares. On estime qu'avec les conditions de sécheresse qui persisteront jusqu'en octobre, le nombre de points chauds risque d'augmenter. Pour surmonter ce problème, le gouvernement, par l'intermédiaire de divers ministères et institutions, a pris un certain nombre de mesures telles que des pannes d'électricité et des techniques de modification du temps, TMC, dans un certain nombre de provinces qui sont des points chauds pour les incendies de forêt et de terre. Cependant, la ministre Siti Nurbaya a confirmé qu'à ce jour, il n'y a aucune pollution transfrontalière par les bouillards vers les pays voisins. À la même occasion, le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Suharyanto, expliquait que son personnel avait soutenu la mise en œuvre d'opérations terrestres et aériennes pour éteindre les incendies de forêt et de terre. Pour les opérations aériennes, sa part a déployé 35 hélicoptères se composant de 13 hélicoptères de patrouille et de 22 hélicoptères bombardiers d'eau, principalement dans les zones prioritaires pour la gestion des incendies de forêt et de terre. Il existe 6 provinces prioritaires pour la gestion des incendies de forêt et de terre, à savoir le Kalimantan occidental, le Kalimantan du Sud, le Kalimantan central, le sud de Sumatra, Riau et Jambi. En dehors de cela, BNPB a également mis en œuvre 244 fois des technologies de modification du temps, TMC, avec la quantité de sel dispersé atteignant 341 580 kg. Pendant ce temps, au cours des deux derniers mois, BNPB a continué à mettre en œuvre le TMC dans un certain nombre de provinces, entre autres Riau, Kalimantan Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Jawa Occidental, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan du Sud et Sumatera Sud. Pendant ce temps, le chef de l'Agence de météorologie, climatologie et de géophysique, BMKG, Dwi Korkita Ranawati, a déclaré que le pic d'El Niño durerait encore jusqu'à la fin d'octobre, puis en novembre commencerait la transition de la saison sèche à la saison des pluies. Du côté de l'alimentation, le vice-ministre de l'Agriculture, Harvik Hasnulkolbi, a déclaré que les produits alimentaires sont actuellement encore assez bons. Même s'il y a une baisse de la production, en particulier dans le secteur des cultures vivrières qui a été touché par El Niño. Pour augmenter les réserves de riz du gouvernement, a-t-il poursuivi, le gouvernement importe afin que les prix du marché restent sous contrôle. C'est Juritard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Thank you. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, si vous voyagez dans la ville de Banjarmasin, dans le Kalimantan du Sud, n'oubliez pas de goûter ces différents délices culinaires typiques. Si vous aimez les plats à base de soupe, vous devriez essayer Sop Mutiara lorsque vous visitez cette ville. Ce plat savoureux vient en réalité de Chine et est servi lors de tous les grands événements tels que les célébrations du Nouvel An chinois, les mariages, les anniversaires, etc. Ce plat typique de Banjarmasin s'appelle Sop Mutiara, qui signifie littéralement soupe aux perles. Cela est dû à la viande de poulet transformée à l'intérieur, qui est hachée et façonnée comme des boulettes de viande, mais de petite taille semblable à des perles. Leur texture est onctueuse et douce. Ce qui est unique et distinctif dans cette soupe, c'est le bouillon. Le bouillon n'est pas comme les soupes en général. Sop Mutiara utilise du lait et assaisonné de muscade, d'oignon et d'ail. Il a donc un goût très délicieux et savoureux. Chers auditeurs, le Sop Mutiara est très approprié pour manger l'après-midi ou lors d'une journée froide. Le plat est vraiment bon à déguster encore chaud avec une assiette de riz tiède. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent goûter au Sop Mutiara, vous pouvez venir à Banjarmasin. Le Sop Mutiara à Banjarmasin est vendu entre 25 000 et 30 000 rupiah par portion avec du riz. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Semua memang kesalahanku, bermain dengan hatimu. Semua memang kelalaianku, berharap memilikimu. Dan kini aku pun kalah, ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Aku tak bisa ku kehilanganmu. Aku merindumu. Aku susah lupa. Jangan kau paksakan akan sanggup. Dan kini aku pun kalah, ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Kesalahanku bermain dengan hatimu.
Serge Litar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Carnaval nocturne de Wayang Jogja. La région spéciale de Yogyakarta organisera le Carnaval nocturne de Wayang Jogja le 7 octobre pour célébrer son 267e anniversaire. Cet événement vise à attirer davantage de touristes à visiter Yogyakarta et préserver l'art de la culture wayang. Le carnaval initié par le gouvernement de Yogyakarta et soutenu par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative aura lieu le 7 octobre 2023 de manière hybride de la zone de Tugu, Yogyakarta. Cette année, le carnaval a pour thème Pandawa Mahabhisheka, l'histoire du Mahabharata écrite par Sri Sultan Hamengkubuwono. Selon le maire par intérim de Yogyakarta, M. Singgi Raharjo, Pandawa Mahabhisheka a une sage philosophie de leadership et exprime sa joie et sa gratitude envers Dieu Tout-Puissant.
Philosophie dari Pandawa Mahabhisheka ini sendiri, Pak Menteri, ini adalah
la philosophie de Pandawa Mahabhisheka est la philosophie du leadership sage et aussi de la joie, signe de notre gratitude envers Dieu Tout-Puissant. Le 8e Carnaval Nocturne de Wayang Jogja fait partie des 110 événements Charisma Nusantara qui présentent un carnaval de rue avec un concept street art. Ce carnaval combine des personnages de marionnettes et des pièces de théâtre et présente 14 groupes de sous-districts de Yogyakarta qui présentent des chorégraphies, de la mode et de la musique contemporaine. Le maire par intérim de Yogyakarta, M. Singgi Raharjo, a déclaré que pour le carnaval nocturne de Wayang Jogja de cette année, il y aurait une tribune spéciale en guise de remerciement, où le comité propose 14 sièges payants qui devraient offrir un sentiment de sécurité et de confort aux touristes qui regardent le spectacle du carnaval.
Dan kali ini, Mas Menteri, ada tribun khusus.
Cette fois, le ministre avait une tribune spéciale pour pouvoir apprécier le carnaval. Nous mettons à disposition 14 places payantes afin que les touristes puissent profiter confortablement et en toute sécurité des représentations des 14 groupes. Non seulement en présentant un carnaval de rue, le carnaval nocturne de Wayang Jogja 2023 présentera également le potentiel des micro, petites et moyennes entreprises de l'économie créative dans la ville de Yogyakarta. Connu pour son excellence en matière culinaire, de mode et d'artisanat, des centaines de micro, petites et moyennes entreprises animeront le carnaval du 1er au 7 octobre. Le carnaval devrait attirer 10 000 visiteurs. Pour ceux qui participent, les touristes n'ont pas à s'inquiéter de la disponibilité des chambres d'hôtel, parce que Yogyakarta dispose d'une variété d'options d'hébergement qui peuvent être une alternative de 3 ou 5 étoiles. Il existe également les homestays dans les villas touristiques. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Ketika kamu jauh di mata, ketika Voice of Indonesia.
Cher Jetar, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et cette fois nous vous présentons une chanson d'Oppie Andaresta. Oppie Andaresta est une chanteuse et une actrice indonésienne. Son nom est devenu célèbre depuis le single Cuman Hayalan de son premier album intitulé Albumnya Oppie est sorti en 1993. Ensuite, sur son deuxième album intitulé Bidadari Badung, il y avait un single à succès intitulé « Ingat-ingat, pesan mama » est sorti en 1995. La chanson a été écrite par Kaka et Bim Bim du groupe Slang, présentant les paroles simples et humoristiques. Cette chanson raconte l'histoire de la délinquance juvénile, lorsque l'enfant voulait faire du mal. Il se souvient toujours du message de sa mère qui l'empêche de faire ce mal. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée « Ingat-ingat, pesan mama » chantée par Oppie Andaresta. Bonne écoute!
We'll be right back.
dan syur bikin deg-degan. Ikutin naluri pacar yang mulai-mulai nakal-akal. Teringat-ingat pesan mama. Teringat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan mama. Mama, 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 mama. Ingat-ingat pesan mama. Ay, 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 ay. Mama, 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 mama. Ingat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan mama. Mama, 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 mama. Ingat-ingat pesan 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 mama.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.